بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه لا يوم الدين وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. Alors tout d'abord, nous remercions le Jamaat de Métropole qui est au Latanier ce soir. Et logiquement, c'est nos invités qui auraient dû prendre la parole. Je suis en train de priver la masjid d'un khair énorme que les invités auraient pu donner. Moi, je n'ai pas grand-chose à vous proposer. Qu'Allah ait pitié de nous et qu'Allah nous accepte, qu'Allah remplisse nos cœurs de sincérité et qu'Allah renforce la muhabbat de la ummat, qu'Allah nous protège des divergences, qu'Allah nous protège des fractions de la communauté. Parce qu'on le rappelait encore il y a quelques jours, s'il y a bien quelque chose sur laquelle les kuffars n'arrêtent pas de travailler, c'est les fractions de la communauté. S'il y a bien une chose à travers laquelle les kuffars, ceux qui sont contre la religion, sans pour autant en faire i'lan, sans pour autant l'annoncer à haute voix, s'il y a bien une chose de laquelle ils arrivent à nous atteindre malheureusement, une chose contre laquelle nous n'avons pas de protection. Nous avons la protection pour notre Coran, nous avons une certaine protection par rapport aux paroles, aux hadiths, aux paroles prophétiques par les chaînes de narration, etc., etc. Notre dîn est protégé par Allah subhanahu wa ta'ala. Mais il y a une chose à propos de laquelle nous n'avons pas eu la protection, ni même par l'acceptation d'un doua de notre prophète. C'est quoi? C'est la divergence de la communauté. La divergence, l'éclatement de la ummat, les personnes qui vont dans différents sens et chacun se proclame étant dans le droit chemin et que les autres sont dans la perdition. Ça, mes chers frères, en plus d'être un piège de shaitan, c'est une méthode classique des ennemis de l'islam. Diviser pour mieux régner. Et cela, nous l'avons constaté, enfin pas nous, mais l'histoire nous a montré à travers pas mal d'événements, on n'est pas dans le sujet, mais on tient à le dire, entre autres, lors de l'Empire Ottoman, pendant le Dawla Uthmaniya, il y avait un certain pays colonisateur, dont on ne citera pas le nom, ce pays avait fait tout son possible pour monter les musulmans les uns contre les autres. Nous savons que l'Empire Ottoman était dirigé par les Turcs, d'accord ? Et l'autre grande puissance musulmane, c'était bien sûr les Arabes, avec Jaziratul Arab, la péninsule arabe et tous les autres pays autour, de le Golfe et ailleurs. Et donc, ce pays colonisateur a tout fait pour mettre en garde les Turcs contre la présence, on pourrait dire ostentatoire, des Arabes et l'emprise qu'ils pourraient avoir sur l'islam. Donc, c'est devenu presque un enjeu politique. C'est nous, Turcs, qui gouvernons le monde musulman, et ce n'est pas vous Arabes. Et tellement ils ont voulu se démarquer des Atraks, ils ont tellement voulu se démarquer qu'ils sont arrivés à un tel degré de fitna, et on dirait même de bassesse, jusqu'à donner l'adhan en turc. L'adhan, à un certain moment, était donné en turc. Et c'était là la consécration, et c'était là, l'objectif était atteint de la part des kuffars, diviser la ummah, parce que tant que cette ummah est unie, nous allons vers un même objectif, nous marchons dans un même sens, nous faisons ce qu'on appelle at-ta'awun wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa, nous marchons coude à coude, côte à côte, dans le but d'amener les gens vers Allah. Parce que l'objectif, c'est quoi? C'est pas de faire un grand discours, ce n'est pas d'écrire un livre, ce n'est pas d'avoir tel ou tel ou tel honneur ou telle référence ou être cité, wallahi l'azim. Tout cela peut nous amener vers le jahannam directement. Ce n'est pas pour rien si la première personne est jetée dans l'enfer le jour de Qiyamah, ce sera le alim. Ça vous choque ça? La première personne, une des premières personnes à être jetée dans le jahannam le jour de Qiyamah, c'est le alim et le qari. Allah Ta'ala le fera reconnaître les bienfaits. Ils diront que vous nous avez donné le ilm, la connaissance ou alors la maîtrise du Coran et nous avons propagé. Et Allah Ta'ala dira à ces gens, cette catégorie de personnes, pas tout le monde, mais certains parmi eux, dit que kazabta, que vous mentez. Vous avez fait votre travail, vous avez enseigné, lu le Coran, afin qu'on dise de vous, vous êtes un savant, ou alors fait qu'on dise de vous, vous êtes un grand qari, faqad qila, effectivement, on a dit, les gens l'ont dit. L'objectif, c'était quoi? D'acquérir le izzat, l'honneur, la reconnaissance des gens. Et Allah Ta'ala, c'est le seul qui connaît ce qu'il y a dans les cœurs. Allah, il connaît l'intention des gens. Mis à part Allah, personne ne sait ce qu'il y a dans votre cœur. Personne. On peut être le plus grand cheikh al-hadith, personne ne peut dire, lui, il connaît mon... Personne, telle personne, il connaît ce que j'ai dans mon cœur, qu'est-ce que je fais, ça, c'est pas bon. Si une personne croit ça, son aqidah est en danger. Ça, il faut bien être clair là-dessus. C'est une parenthèse. Bon. Donc, Allah Ta'ala ordonnera aux anges d'emmener ces gens, de les humilier par leur visage, de les traîner, de les jeter dans le Jahannam. Alors que, paradoxalement, nous savons quelles sont les récompenses qu'Allah Ta'ala a accordées pour le savant, pour celui qui propage la science religieuse, depuis le moment où il apprend. Les ailes étendent leurs ailes pour l'étudiant qui va à la recherche de la science. Toutes les créatures font doua pour eux, même hatta al-hitan ou fil bahr, même les poissons dans les mers. C'est-à-dire pour montrer la variété des makhloukats qui font doua pour lui. Et le prophète m'a dit, quand Allah veut du bien pour quelqu'un, Allah lui accorde la science. At-tafaqquh fi d-din. Il n'y a peut-être pas une autre branche de la religion pour laquelle il y a autant de récompenses, autant de vertus. Mais ça, à partir du moment où on est sincère. Enlever la sincérité, ce ilm, cet atout, devient un hujja contre vous. Vous. Au lieu de vous propulser dans les plus hauts degrés du paradis, il vous précipite, nasallahu alayhi wa sallam, en premier dans le jahannam, avant les autres personnes. Qu'Allah nous protège, mes chers frères, qu'Allah nous donne la sincérité, l'ikhlas, l'istiqama, que notre but c'est vraiment que nous pouvons amener, bi'idhnillah, le maximum de gens vers Allah. Et nous le répétons, nous le répéterons jamais assez. L'objectif de tous les programmes, que ce soit avec nos frères, que ce soit avec un programme sur le tafsir, sur le hadith ou n'importe quoi, c'est quoi l'objectif? C'est que le jour de Qiyamah, nous soyons tous ensemble dans le paradis. Bas, il n'y a rien d'autre. Maintenant que je m'appelle un tel, que j'ai tel titre, ça ne sert strictement à rien. Le but c'est quoi? C'est que les musulmans, ils aient la guidée, la hidayah de la part d'Allah, sachant que la guidée n'est pas dans nos mains. Nous sommes des acteurs. Peut-être Allah m'utilise, peut-être Allah ne m'utilise pas. La guidée est dans les mains d'Allah. Ce n'est pas parce qu'on est diplômé 10 années, 15 années d'études islamiques et que l'autre il n'a rien fait comme étude islamique que lui il guidera et l'autre ne guidera pas. Parce que les Anbiya n'ont pas pu guider tout le monde. Les Anbiya ont eu des proches, des oncles, des membres de la famille. Ils ont fait leur juhd, leur effort. Nuh n'a pas pu guider son fils. Y avait-il meilleur da'i que Nuh? La wallah. L'autre, alayhi salam, n'a pas pu guider son épouse. Y avait-il meilleur da'i que l'autre? La wallah. Le prophète, alayhi salatu wassalam, n'a pas pu guider son oncle. Y avait-il meilleur da'i que notre prophète, sallallahu alayhi salam? La wallah. C'est-à-dire que la guidée dans les mains d'Allah, nous sommes des pions. Nous demandons à Allah de nous choisir comme étant, comme faisant partie de, en guillemets, ces pions. Qu'Allah nous guide, nous utilise pour le khidmat du din. Et puis le reste, c'est dans les mains d'Allah. Que les gens aient la guidée, que les gens n'aient pas la guidée, ce n'est pas dans mes mains. Je fais mes efforts et on demande à Allah la guidée pour les gens et le cœur doit être propre, pur. Mon but c'est que les gens, ils trouvent la guidée, le sirat al-mustaqim et que nous soyons tous ensemble dans le paradis. Qu'Allah nous réunit, Inch'Allah, un jour dans le Firdaus, même si nous sommes de régions différentes. Nous sommes à Saint-Denis, vous êtes de Clermont-Ferrand, vous êtes très loin, mais que dans le paradis. Vous savez que dans le paradis, les gens se réuniront et ils parleront de la situation de la dunya. Ça, c'est extraordinaire. Ça. Les dialogues des Ahlul Jannah. Ils disent que vous vous souvenez telle difficulté qu'il y avait dans ce dunya. Et les gens du paradis vont en parler, subhanallah. Et qu'Allah fasse que un jour, nous assistons à ce genre de majlis dans le jannat, sous les arbres, sous l'ombre des ashjar, des arbres du paradis. Et que nous parlons du dunya. Et que nous nous souvenons des difficultés. Parce que mes chers frères, wallahi l'azim, la Ummah va connaître des difficultés comme jamais elle n'en a connues. Nous en avons un échantillon avec certaines lois qui ont été votées, d'autres qui sont en étude et qui vont être votées, et d'autres décrets, des référendums et d'autres choses encore qui ont pour but d'atteindre l'islam, d'atteindre la pratique du musulman. Mais cela fait partie, malheureusement, ce n'est pas une fatalité, cela fait partie de la situation difficile décrite par les hadiths jusqu'à la fin des temps. Pratiquer sa religion deviendra de plus en plus difficile. Il sera plus difficile de pratiquer son dîn. Ce sera comme tenir une braise, un charbon ardent dans sa main. Mais sachons également cette règle générale qui veut que plus le contexte est difficile, plus la pratique est compliquée, plus les récompenses seront élevées. Et ça, on le dit toujours. Moi, je le répète à mes élèves, un homme qui contrôle son regard à Mecca, il habite en face de Haram Sharif, il habite à Mecca, il contrôle son regard, c'est pas compliqué. Quelqu'un qui contrôle son regard à Saint-Denis ou en métropole ou dans un autre pays où les femmes ne s'habillent pas comme Allah nous le demande, alors là, c'est un mujahada. Et comprenons que la récompense qu'il y a pour ce jeune homme de 19 ans, qui est au lycée ou qui est à l'université, qui est donc majeur, qui est donc un homme libre, à qui on a inculqué que la sexualité commence à 13 ans, 14 ans, et qu'à 14 ans, avoir ses premières relations sexuelles, c'est tout à fait normal, cela fait partie de notre propre émancipation, c'est notre construction, la construction de soi, que de connaître le sexe opposé très jeune, il n'y a aucun mal à le faire, alors ce jeune à qui on a tout donné, on a donné les armes pour se tuer, pour se détruire, pour se donner la mort physique et spirituelle, mais ce jeune sait retrouver la lumière dans cet océan d'ombre. Il voit le bout du tunnel, un faisceau de lumière. C'est ce qu'Allah a promis en suivant le Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, en se donnant comme exemple Youssouf alayhi salam, un jeune homme beau qui a tous les atouts, qui a une proposition d'une princesse magnifique, d'une grande beauté, mais qui sait trouver la guider, la lumière d'Allah. Ce jeune qui saura se contrôler, s'abstenir du zina, contrôler son regard, qui ne fera pas la bise, qui restera dans les limites de ce qu'Allah a fixé comme limite, je vous assure, c'est un grand, c'est un salih, comme on dit en ourdou, c'est un buzruk, c'est un homme pieux, c'est quelqu'un qui fait quelque chose qui est inimaginable pour une personne qui habite dans un pays musulman. Donc je vous annonce cette bonne nouvelle, si nous savons rester dans les limites du halal et du haram, wallahi, même si nous ne faisons pas qiyamul layl, même si nous ne jeûnons pas tous les lundis, les jeudis, même si nous ne faisons pas ishraq tous les matins, tahajjud le soir, même si nous ne faisons pas, comme les qudama, un khatmul quran tous les trois jours, mais si nous nous contrôlons, nous restons éloignés du haram, et nous obéissons à Allah dans ce qu'Allah nous a demandé, mes chers frères, nous irons, inshallah, très loin. Qu'Allah nous accepte tous. Nous allons essayer de terminer ces derniers versets de Al-Fajr, dont on a lu quelques versets. Lorsque, tout d'abord, il faut rappeler que on avait expliqué avant ça quelle sera la situation des gens de l'enfer et comment dans l'enfer, personne ne punit comme Allah ne punit. Personne ne sévit comme Allah ne sévit. Tout comme personne ne peut récompenser comme Allah récompense à travers le Jannah, les ni'am, les bienfaits du paradis, de même lorsqu'Allah décide de sévir, il n'y a personne qui peut sévir comme Allah. Et ça, le musulman doit bien intégrer ce principe pour ne pas sombrer dans un excès. L'excès de confiance ou l'excès de crainte. L'excès de crainte peut amener vers le kufr. Une personne, et je l'ai déjà entendu ce discours, on l'a déjà dit également, une personne me dit une fois, enfin moi me dit à mon épouse, c'est une dame, il dit que c'est une musulmane qui est malheureusement un peu loin parfois de la religion, vu le contexte difficile dans lequel elle vit, et elle nous fait comprendre son admiration pour une autre religion monothéiste. Il dit dans cette religion, ce qui me plaît, c'est que tout est amour. Alors que dans l'islam, on ne parle que des châtiments, on ne parle que des mises en garde, la notion de péché est omniprésente. C'est-à-dire que si une personne garde à l'esprit que les textes de ce qu'on appelle At-Tarhib, les mises en garde, effectivement, elle peut se dire que nous avons un Dieu cruel et injuste qui nous a mis sur terre, qui a dicté un destin, et nous allons accomplir ce destin et finalement peut-être aller dans le Jahannam sans avoir le choix. C'est pour ça qu'on peut arriver au kufr si nous ne faisons pas le mélange entre le Tarhib et le Tarhib. Si nous ne savons pas faire ce mélange entre la confiance en Allah et la crainte d'Allah. Et l'autre excès également, on va se dire que je peux faire tous les péchés du monde, Allah est Ghafur Rahim. Et ça, c'est ce discours, je l'ai entendu aussi, de la part d'un jeune, il m'avait dit que, Midjaouma, le jour qui est à Matla, Allah va dire toute musulman debout, aller dans le Jannat sans rendre compte. Wallah, si c'était comme ça, je serais heureux. Ce n'est pas que j'ai envie de le contredire, j'aurais aimé qu'il eût raison. Mais il n'a pas raison. Parce que les textes prophétiques expliquent bien qu'il y aura des ahlul iman qui, à cause de leurs péchés, devront passer dans le Jahannam. Et que lorsque tous les Jannatis seront au Jannat, notre prophète والسلام, ira les chercher dans l'enfer. Ils seront carbonisés, brûlés par l'enfer, et ils passeront dans le fleuve du paradis, retrouveront une certaine beauté et accéderont au paradis. Hadith prouve bien que des Ahlul Iman entreront dans le Jahannam. Donc, nous devons être entre Al-Raja et Al-Khawf, entre l'espoir et la crainte. Nos destins sont dans les mains d'Allah, la décision est dans les mains d'Allah. Qu'est-ce que je dois faire, moi, en tant que musulman? Je fais de mon mieux. Il y avait un jeune qui... Enfin, on est en train de sortir du jeûne, on ne finira jamais au Al-Fajri. Il y avait un jeune qui a beaucoup de problèmes avec ses parents. Beaucoup de problèmes, énormément de problèmes. Qu'Allah lui vienne en aide, il n'est pas présent, bien sûr. À la limite du supportable. Je me dis, si j'avais son âge et que j'avais des parents qui avaient un tel comportement, j'aurais pété un câble, comme on dit. C'est une pression psychologique permanente avec des parents... Plutôt un des deux parents très déstabilisé psychologiquement. Ce jeune me demande, Moïssa, ben, que puis-je faire avec ma maman? Elle est presque hystérique. C'est un cauchemar de vivre chez moi. Elle est toujours en train de hurler, de me crier dessus, trouver toujours quelque chose, prêt à me chasser de la maison même parfois. Et ce n'est pas de ma faute. Je fais ce que je peux. Je dis à ce jeune, fais de ton mieux. D'accord? Ne manque jamais de respect à tes parents. Que tes parents ont tort ou raison, ils ont toujours raison. Les parents n'ont jamais tort. Même si sur le papier, c'est toi qui as raison, mais sache que dans le fond, ils ont raison. Parce que c'est ton papa et ta maman. Maintenant, j'ai dit à ce jeune, fais de ton mieux, que ton cœur soit propre. Si ta mère interprète mal ce que tu as fait, ce que tu as dit, mais si dans ton cœur, tu recherches en permanence le contentement de tes parents, Allah il sait ce qu'il y a de ton cœur. Et Allah ne te punira pas pour des effets qui n'étaient pas recherchés. Mes chers frères, nos actions, c'est bien, mais il faut qu'intérieurement tout soit pur. Je recherche le bien, le contentement d'Allah, et puis même si je suis faible, Allah aura pitié de moi. Car le prophète m'a bien dit que personne n'accédera au paradis par ses actions. C'est uniquement par la pitié d'Allah. Si Allah a pitié de nous, nous entrerons au paradis. Et là, la règle qu'on a déjà expliquée 75 fois, on expliquera pour Allah. 76 fois, que doit-on faire pour qu'Allah ait pitié de nous? Ar-Rahma'u yarhamuhum ar-Rahman. Nous devons avoir pitié pour nos prochains. Agir correctement avec nos prochains. On ne parle pas d'akhlaq, pas de comportement, mais avoir de la compassion. Ne pas être dur avec son prochain. Très souvent, le religieux, on a l'image de quelqu'un de dur, de ferme. Non, notre prophète sallam était quelqu'un dont le cœur était rempli de rahma pour la umma, pour les gens. Nous devons avoir de la compassion, de l'amour pour notre prochain, de la pitié. Dans les erreurs, comprendre l'erreur de notre prochain. Accepter les erreurs. Ne jamais s'emporter. Toujours comprendre la position. Essayer de comprendre la position de l'autre. De la sorte, Allah Ta'ala aura également pitié de nous. Donc, on avait expliqué le Jahannam dans les quelques versets, le 23 au 25 à peu près, et 26. Maintenant, à partir du verset 27 jusqu'à la fin, on avait dit la dernière fois que cette annonce « Ya ayyatuhan nafsul mutma'inna »« Ô toi, âme apaisée », on avait dit que c'était l'annonce de l'ange de la mort ainsi que de ceux qui viennent avec lui pour reprendre l'âme du mu'min. Et on avait expliqué que lorsqu'un mu'min va quitter ce dunya, Malik al-Maut l'annonce, le salam de la part d'Allah. Et cette personne a la bonne nouvelle du paradis. Allahu yuqri'uka salam. Et on avait dit, quelle plus grande joie, quelle plus grande consécration pour un musulman qui, lorsqu'il va mourir, on l'annonce qu'Allah lui transmet ses salams. Ça, c'est, mes chers frères, la plus grande récompense qu'on peut avoir sur ce dunya, c'est la consécration d'une vie. Quand l'étudiant il a son bac, c'est la consécration de sa scolarité, maternelle jusqu'à la terminale. Mais ça, c'est différent. C'est un autre degré. C'est ma vie depuis que j'ai 14-15 ans, depuis que je suis baligh, jusqu'à ma mort, j'ai des choses à faire. Et recevoir cette nouvelle avant de mourir, c'est la plus grande des consécrations. Ça veut dire que c'est comme si on a mis un cachet, que tu as passé ta vie comme Allah le souhaitait, et maintenant Allah est satisfait de toi. Et c'est une annonce, une bonne nouvelle pour toutes les étapes qui vont venir après. L'étape de la tombe, l'étape de la résurrection et l'étape des comptes. C'est la première étape. Si dans cette première étape ça se passe bien, ça veut dire que bi'idhnillah, inshallah, tout le reste va passer Inch'Allah, de la meilleure des façons. On avait expliqué, on n'avait pas fait Ila Rabbiki Radiyatan Mardiyah, on avait juste parlé de l'annonce de Malik al-Maut, et on avait parlé, oui, surtout de l'âme, lorsque le ruh quitte le corps, comment c'est une épreuve difficile. On avait expliqué également comment une personne qui a la foi de son cœur, même si toutes les conditions sont réunies pour que cette personne soit triste et malheureuse, cette personne peut vivre un paradis dans son cœur. On avait cité le cas de ce grand savant qu'on avait injustement emprisonné. Il avait dit que de l'extérieur, on me voit dans une prison, mais dans mon cœur, il y a un paradis. C'est une parole, c'est une histoire. Il a dit parce que dans mon cœur, j'ai la foi en Allah, la confiance en Allah. On avait expliqué que le musulman qui a la confiance en Allah et qui croit au destin, c'est quelqu'un qui peut qu'avoir le cœur apaisé, tout le temps. Celui qui n'a pas iman, il a peur pour demain matin. Qu'est-ce que je vais manger au petit déjeuner? Comment sera mon salaire demain? Qui me dit que mon entreprise ne va pas faire faillite? Qu'est-ce qui va se passer? L'effondrement de la bourse, la crise, etc., etc. Il vit dans une crainte permanente. Parce que selon cette personne qui n'a pas iman, le destin, il n'y a pas de destin, mais le futur dépend de l'agissement des hommes. Tout est dans la main des hommes. Il suffit que quelqu'un fait une bêtise par rapport au 440 ou alors au Wall Street, ou quoi, pour que ça puisse avoir une conséquence directe sur mon salaire et que j'aurai moins de viande à manger au mois de janvier que je n'ai eu au mois de décembre. C'est comme ça pour celui qui n'a pas de iman. Celui qui a iman, il sait que tout est dans les mains d'Allah. Qu'une chose bonne m'arrive, c'est écrit. Qu'une mauvaise chose m'arrive, je n'aurais pas pu l'éviter. Allah me l'a déjà écrit. Ça, c'est la quiétude qui habite le cœur d'une personne qui a la foi en le destin et d'une manière générale, le iman dans son cœur. Donc, l'annonce, ô toi âme apaisée, retourne vers ton Seigneur, satisfaite et agréée. Autant le mu'min qui quitte ce dunya est satisfait d'Allah, sachant qu'est-ce qu'Allah lui a préparé, lui a réservé, autant Allah subhanahu wa ta'ala est satisfait de ce mu'min, tout comme Allah ta'ala l'avait dit à propos des sahaba, radiyallahu anhum wa radu anhu. Sauf que eux, ils avaient eu cette annonce dans le dunya. Et nous, inshallah, nous l'aurons avant, juste avant de quitter ce dunya. Et Allah ta'ala dit le Coran ensuite, fadkhuli fi ibadi. Mais avant cela, nous devons savoir que la plus grande joie que peut éprouver un musulman, c'est quoi? C'est la rencontre avec Allah. La mort, le retour vers Allah, c'est la plus grande joie que peut ressentir un musulman. Celui qui n'a pas la foi, la mort le fait peur. Remarquez, dans notre société, nous discutons de tout. Regardez sur Facebook, on peut parler de tout et de rien. De la main de Thierry Henry jusqu'au tirage qu'il y aura ce soir, jusqu'au minaret suisse, on va parler de tout. Jusqu'aux recettes de cuisine, tout. Mais on ne parle pas de la mort. On parle des maladies. Il y a des forums bien faits sur les maladies, les expériences avec les docteurs, les médicaments, tout. Mais la mort, regarde, allez sur les doctissimo.com.fr, je ne sais pas quoi. Vous ne trouverez jamais quelqu'un qui parle de la mort. Notre société ne parle pas de la mort. C'est un tabou, la mort. Parce qu'on est dans l'inconnu. La mort fait peur. Celui qui n'a pas iman a peur de mourir. Mais celui qui a iman, celui qui a toutes ses salawat, ses prières complètes, ses ramadans complètes, son hajj accompli, ses zakat payés, ses parents sont satisfaits de lui. Il n'a fait de mal à personne. Je ne dois de l'argent à personne. Je n'ai jamais, jamais critiqué Feribad Bohtan ou fait du mal à quelqu'un. Ce musulman-là, il ne fait pas de péché, bi'idhnillah. Il est content de retourner auprès d'Allah. Man ahabba liqa Allah, ahabba Allahu liqa'a. Celui qui aime, c'est-à-dire qui veut rencontrer Allah, Allah également veut le rencontrer, aime le rencontrer. Et qui est prêt à rencontrer Allah? Moi, je ne suis pas prêt. Moi, je ne suis pas prêt. Parce que je sais que j'ai encore des péchés à propos desquels je dois demander tawbah, qu'Allah nous pardonne. Celui qui veut rencontrer Allah, c'est celui qui vraiment, il a un iman extraordinaire. Mais d'une manière générale, pour retourner un peu à notre niveau terre à terre, nous, musulmans, nous ne devons pas craindre la mort. Nous devons attendre ce moment. Ne pas le provoquer, bien sûr. Hein? Mais attendre, ça ne doit pas être une fatalité ou une catastrophe. D'accord? Parce que le prophète a dit, « Ad-dunya, c'est d'une l'il-mu'mini wa jannatu l'il-kafir. » De toute façon, ce bas monde, c'est un paradis pour celui qui n'a pas la foi. Et pour nous, c'est un enfer, c'est un supplice. On voit, il n'y a pas besoin d'écrire tout ce qui se passe autour de nous, de l'actualité ou autre. nous voyons que vivre sa foi est difficile. Et jusqu'à la fin des temps, l'expertise nous explique bien, ça deviendra de plus en plus difficile. Jusqu'à avant, Imam Mehdi viendra un moment où dire qu'on a le iman de son cœur, on peut être tué pour cela. C'est quelqu'un qui dit qu'il a le iman, qu'il pourra être tué. C'est une situation catastrophique avant la fin des temps. C'est pour ça que lorsqu'une personne perd un proche, un père, un papa, un maman, ou notre épouse, ou nos enfants, il ne faut jamais que la personne soit attristée de manière, d'une durée trop longue. Attristée parce que la personne nous a quittés, oui, ça fait partie des sentiments humains. Le prophète lui-même a pleuré lorsque son fils est décédé. Les sahabas du prophète d'Allah, pourquoi vous pleurez en ce sens? Le prophète dit, ça c'est la rahma, ça c'est l'humanisme, la pitié qu'Allah a mis dans le cœur des hommes. Nos cœurs ne doivent pas être de pierre parce que nous avons la foi, jamais de la vie. Mais maintenant, si mon père meurt, si ma mère meurt, si mon épouse meurt, je sais que ces personnes-là ne sont pas perdues. Ces personnes-là retournent vers Allah. Et ma mère qui va mourir, toute sa vie, elle a 75 ans maintenant, elle a 80 ans. Son hajj, ses umrah, ses ramadan, ses salawat, ses du'a, toutes les ibadats qu'elle a fait. Et tous les péchés à propos desquels elle a su s'abstenir, rester éloignée, ben, alhamdoulilah, elle retrouvera toutes ses récompenses. C'est maintenant, quand elle retourne vers Allah, par le biais de la mort, cette personne va avoir tout ce qu'elle a travaillé. Elle va avoir tout ce qu'elle a planté, elle va récolter. Dans certaines sourates, je n'ai pas vérifié l'authenticité, c'est Imam Qurtubi qui le rapporte de la Tafkira. Elle dit que si on proposait à un défunt de retourner auprès de un défunt mu'min, celui qui a la foi dans son cœur, qui a réussi ses étapes, si on lui proposait de revenir dans ce bas monde et on lui accordait tous les biens de ce monde, retourne auprès de ton mari, ou retourne auprès de tes parents, ou retourne auprès de tes enfants, et on te donne ce dunya, jamais ce mu'min ne retournerait vers le dunya. Parce qu'il a déjà vu qu'est-ce qu'Allah lui réserve dans le akhirat. Parce que la tombe, ça fait partie déjà du akhirat. Qu'on comprenne bien, quand quelqu'un nous quitte, si c'est quelqu'un qui a la foi, nous devons être contents pour cette personne, car elle retourne vers Allah. Et c'est ça qui fait que notre vie est merveilleuse. Nous passons ces années dans l'adoration, l'obéissance d'Allah, et quand on meurt de toute façon, ce n'est pas une catastrophe, bien au contraire, c'est la récompense qui commence lorsque le ruh quitte le corps. Mais maintenant, il faut réunir ces conditions pour que notre situation soit ainsi, Inch'Allah. Donc, Fadrouli fi ibadi, Allah Ta'ala annonce cette bonne nouvelle, retourne vers ton Seigneur, satisfaite et agréée, ça on l'a dit, entre donc parmi mes serviteurs. C'est-à-dire, cette personne va être accueilli parmi les pieux serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et en commentaire, le Mufassir, il dit qu'il y a trois catégories de personnes. Il y a la catégorie des gens qui sont dans le droit chemin, ceux qui sont dans as-sirat al-mustaqim. Quand on demande ihdina as-sirat al-mustaqim, as-sirat al-ladhina an'amta alayhim, c'est qui? Ce sont les ahlul iman. Ce sont ceux qui ont la foi, c'est-à-dire les musulmans. Et parmi les Ahlul Iman, il y a trois catégories. Thumma awrathna al-kitab alladhina astafayna min ibadina. Maintenant, il y a trois catégories. Faminhum zalimun li nafsi. Il y a ceux qui se font du tort. Comment ils se font du tort? Ce sont des gens qui font des péchés. Et ça, c'est ajib, ça. La personne qui fait un péché, normalement, elle prend plaisir. D'accord? Si je bois ou je mange quelque chose qui est haram, c'est que j'ai envie de le faire. Et quand je le mange, j'éprouve un plaisir. Si une personne fait le zina, c'est que cette personne a trouvé belle cette femme et qu'il a voulu faire l'adultère avec elle. Donc il a pris du plaisir, etc., etc. Vous savez que dans tous les péchés, il y a un plaisir. Mais c'est le plaisir satanique, ça. Le plaisir que Shaitan nous fait voir comme plaisir, d'accord? Et ce verset décrit la personne qui fait des péchés comme quelqu'un qui se fait du tort. Bien qu'en apparence, je suis en train de profiter de quelque chose. Je veux, je fais. D'accord? Mais en réalité, je me fais du tort parce que je me précipite vers le mauvais chemin. Faminhum dhalimun li nafsi, le pécheur. Faminhum dhalimun li nafsi wa minhum muqtasid. Il y a ceux qui sont entre les deux, intermédiaires. C'est-à-dire ce musulman qui fait de bonnes actions, mais qui malheureusement fait également des péchés. Il fait de bonnes actions, il fait ses farad et tout. Mais malheureusement, il fait des péchés aussi. C'est un pas en avant, un pas en arrière. Est-ce qu'en finalité il progresse? Wallahu a'lam. Le matin il fait fajr, mais dans la matinée il va travailler avec le riba, l'intérêt. Il va serrer la main de ses collègues, de ses collègues du travail, des femmes. Il va faire la bise, etc., etc. Ses filles vont aller à l'école, cheveux au vent. Ses filles vont s'habiller en pantalon, en jean moulant. Pas la famille Moulin, un jean très serré. Une grande famille qui s'appelle Moulin ici, mais on ne fait pas, on ne parle pas de ces gens-là. C'est-à-dire avec les t-shirts très cintrés, très décolletés. Et moi, je suis mu'mine, hein, j'ai fait fajj, j'ai fait peut-être même qiyamul layl, j'ai fait shuruq, j'ai même assisté à ta'alim après fajr, mais quand ma fille, elle va à l'école, elle met un jean cintré, un jean moulant, le taille basse et le truc cintré, c'est-à-dire comme toutes ses copines. Donc, je vais avoir de gros problèmes dans ma tombe. Je vais avoir d'énormes problèmes. Même si j'ai fait ma salat, mais je suis responsable de mes enfants. Si je n'ai pas assuré l'éducation de mes enfants, je n'ai pas obéi à l'ordre d'Allah. Pardon. Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum. J'ai fait ça. J'ai fait mes salat, je me suis protégé de l'enfer. Mais après, c'est quoi? Ahlikum nara. Et vos proches, votre famille. On pourra faire. C'est pas critiquer bêtement, hein. On pourra faire tourner 1000 tasbih dans les doigts, on pourra faire des dhikrullah, des tilawat al-Qur'an, tout ce qu'on veut. Si je n'ai pas guidé, je n'ai pas éduqué mon fils et ma fille comme Allah me l'a demandé, je n'ai pas fait grand chose. Et ce fils, cette fille à qui j'ai tout donné, j'ai laissé mon fils, laisse-le sortir, maman il est encore jeune. Il est encore jeune, laisse-le, il a besoin de grandir, il a 18 ans, là, il a 19 ans. Ou alors, soit il est encore jeune, soit il a fini grandi. Il n'y a pas d'étape intermédiaire. Quand il a 14, 15 ans, laisse-le lire. Fais pas lève, il dit, lève Fajr. Non, je dis dimanche. Maman, il est petit, laisse-le dormir. Il est petit, il a 15 ans, il est petit. Il connaît plus de choses que vous, il est petit. Et quand il est grand, il a 19 ans, et oh, il est majeur, il sait ce qu'il fait. Donc, il n'y a pas de phase intermédiaire. On laisse nos enfants par pitié, on va les délaisser parce qu'on se décharge de notre responsabilité. Alors, ce fils ou cette fille à qui on a laissé la liberté, il veut aller en boîte, il va à Saint-Gilles, il va au Safari, il va au Zaza, il va au Moulin Rouge ou alors quelles que soient les boîtes. Il faut le laisser, il est en train de grandir. Ce fils, cette fille qui croit que « Ah, mon papa, il est cool !» Papa, il est ça, moi, fais ce qu'il veut. « Oh, papa, il est gris, ça, maintenant, il est bien à la mosquée, tout ça. Ah ouais ?» Non. Mon père, il me laisse aller où je veux, mais ce propre fils que vous avez nourri avec un venin, ce propre fils-là, il vous prendra la main devant le tribunal d'Allah. Ah ou papa, ou là, fait tout, alhamdulillah, salat et tout. Moi, tu m'as laissé grandir dans le zina, dans l'alcool, dans la drogue, dans tout ce que tu n'imaginais pas. Et tu n'as pas su fixer les limites. Donc, on va très loin là. Pour revenir à ce qu'on est en train de dire, oui, ce muqtasid, il fait un pas en avant. Un pas en arrière. Il avance, il fait fajr. Mais quand il va travailler avec l'intérêt, il refait un pas en arrière, etc., etc. Et ensuite, il y a la meilleure des catégories. وَمِنْهُمْ مُتَزِعُونَ سَابِقُمْ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ. Ceux qui sont loin, loin devant, dans le droit chemin. Ce sont des gens qui font les obligations, les farazes, les sunnat, les mustahabbat. Un. Qui s'éloignent du haram, qui s'éloignent du douteux, du makruh, du mashkouk. Ça, c'est le plus haut degré de iman. Et comme il y a 3 degrés de iman, ben, il faut savoir que le jour du Qiyamah, dans les étapes de l'au-delà, il y a 3 catégories de personnes. Il y a les gens de gauche, ashabu shimal, il y a les gens de droite, ashabu yamin, et il y a ceux qui sont au-dessus du lot, les muqarraboun, ou les muqarrabin, selon grammaticalement, les gens qui sont proches. C'est là l'élite des ahlul iman. Et les descriptions du paradis, c'est pas, on ne va pas parler de ça, mais dans le paradis, par exemple, je n'ai pas les versets en tête, quand on parle des gens de droite, ils vont boire les fleuves, etc., etc. Et quand on parle de Muqarrabin, il y a d'autres versets qui disent qu'ils boivent, ça c'est assez technique, qu'ils boivent de ces fleuves du paradis à la source. Il y a un qui boit, qui récupère, qui le boit, et il y a un autre qui boit à la source. Et dans le paradis aussi, ceux qui seront dans le Firdaus, ils ont quelque chose en plus de celui qui est d'aller degrés les moins élevés, parce qu'il n'y a pas de bas degré, dans les degrés les moins élevés du paradis. Donc, il y a 3 catégories de l'Ahlul Iman. Pour pouvoir revenir, on va terminer avec ça, parce que normalement, on ne dépasse pas 30 minutes. On a 34 minutes. Il y a 3 catégories, et, ceux qui sont dans Sirat al-Mustaqim. Deuxième catégorie, il y a Al-Maghdoubi alayhim, et il y a Al-Dallin. Et je ne sais pas s'il y a un intérêt à développer ça, dans le contexte où on est, mais il faut savoir qu'en commentaire, il est dit que ceux qui ont caché la vérité, certaines communautés avant nous, qui étaient vivants à l'époque, je pense à Salam, ils cachaient la vérité. Et donc, ils induisaient le co-religionnaire dans l'erreur. C'est-à-dire ceux qui détenaient la science, il ne disait pas la vérité aux gens. Et c'était parfois de manière grossière. Une fois, le prophète avait demandé à ces gens-là, est-ce que dans votre livre, vous avez les versets à propos de tel choix, Ar-Rajm? Et là, cette personne a dit, ce savant de cette religion, qu'est-ce qu'il a fait? Il a juste caché le verset avec sa main. Et d'une manière aussi grossière. C'est-à-dire cacher la vérité, même de manière aussi simple. Autre exemple, ils avaient le chef qui s'appelait Abdullah ibn Salam. Et le Prophète avait demandé à ces personnes de cette religion, Abdullah ibn Salam s'était converti à l'islam. Mais personne ne le savait. Le Prophète demande à ces gens, à ces co-religionnaires, que dites-vous d'Abdullah ibn Salam? Et dit Abdullah ibn Salam, c'est notre mufti, c'est notre chef, c'est notre imam, c'est le meilleur parmi nous, nous le respectons, ce qu'il dit c'est toujours la vérité, c'est un grand des grands. Le Prophète, il dit à ces gens, Abdullah ibn Salam était avec le Prophète mais caché d'un rideau. Le Prophète dit, si je vous dis qu'Abdullah ibn Salam s'est converti à lui la shahada, il dit, jamais il ne ferait quelque chose comme ça. Jamais. C'est notre chef. Le Prophète tient le rideau, Abdullah ibn Salam, et dit que j'ai attesté, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulallah. Et ces gens-là, regardez comment, subhanallah, ils ne respectent pas leurs paroles. Ils avaient dit que, le Prophète avait dit, si je vous dis, est-ce que vous aurez accepté, ils auraient dit, bien sûr, si je ne me trompe pas, mais lui, il n'est pas comme ça, jamais il ne lirait la shahada. Et Abdullah ibn Salam s'adresse à ces gens, dit, je vous assure que maintenant je suis musulman, je suis ce prophète, j'obéis à ce prophète. Et il a dit que non, Abdullah ibn Salam n'est pas une référence, au contraire, ce n'est pas quelqu'un en qui on peut faire confiance, il ne fait pas partie de l'élite de notre religion, etc. C'est-à-dire, de manière aussi flagrante, il se contredisait et donc il faisait tout pour ne pas voir la vérité. Et quand il le voyait, il le cachait. Et en commentaire, ça c'est un commentaire très dur, le Mufassir, ils disent que même parmi les Ahlul Iman, et il a dit même parmi les savants, ceux qui connaissent la vérité et qui le cachent, ils ont cette sifat que cette communauté avait. Si je sais quelque chose, qu'Allah me pardonne en premier, qui est bid'a ou qui n'est pas bon, qu'on laisse les gens faire, ça veut dire qu'en moi, j'ai un sifa de ces gens. Comme eux, ils avaient le ilm, mais ils le cachaient. Ils ne disaient pas tout aux gens. Si quelqu'un a la science, et il sait que telle chose n'est pas bon, telle pratique est haram, ou contraire à la sunna, mais il ne le dit pas. Il est en train de cacher, il n'explique pas, il induit les gens en erreur. C'est pas moi qui le dis, hein. Moi je ne dis rien, je ne fais que traduire. Le mot facile dit que ce savant, il a un sifat de ces personnes, qu'Allah nous protège. Et puis il y a Walabdalin, les égarés. Ce sont des gens dont parfois le cœur est rempli de bonne volonté, mais qui n'ont pas trouvé le droit chemin. Ils font de bonnes choses, mais ils sont égarés. Ils ont été égarés par des textes falsifiés, par des croyances qui ont été modifiées à une certaine époque, et ils ont tous été induits de la sorte en erreur. Et de nos jours, regardez bien, analysons avec le téléthon qu'il y a, alhamdulillah, si on peut donner, on donne, ça, il n'y a pas de souci. Mais la différence, le mu'min, il va donner dans ce genre d'association et il sera rétribué. On ne va pas dire ça, peut-être, bon, de toute façon, ceux qui n'ont pas iman, ils ne nous écoutent pas. Mais quelqu'un qui n'a pas la foi, ses sadaqas, ses dons, ne lui apporteront strictement rien. Nous devons remercier Allah, ne serait-ce que pour ça, que notre compte est crédité parce que nous avons la foi. Même si ces gens-là, parfois, ils peuvent avoir plus de qualités que nous. Ils peuvent être plus généreux que nous. Ils peuvent être mieux éduqués que nous. Ils sont de meilleurs citoyens que nous. Mais ils n'ont pas le iman. Ce qui fait que les actions ne parviennent pas à leur objectif. Et nous terminerons, nous conclurons sur ce verset. فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّ أَحَدًا. En commentaire, le Fasil dit que dans ce verset, nous avons les trois conditions pour qu'une action soit acceptée par Allah. La foi, iman. C'est-à-dire que celui qui n'a pas la foi, même s'il fait plein de bonnes choses, هَبَاءً مَنْثُورًا, ses actions ne lui seront d'aucune utilité. Il sera honoré sur ce dunya, mais le jour de Qiyamah n'aura rien. Deuxième condition pour que l'action soit acceptée, al-ikhlas, la sincérité. Enlever une de ces conditions, l'action s'écroule. Tout comme une bonne action ne sera pas acceptée si on enlève le iman, on est d'accord avec ça, tout le monde est d'accord. Mais sachez également que nous devons être d'accord sur le fait que si nous enlevons ikhlas, l'action est aussi caduque que comme elle l'était quand on avait enlevé iman. Comme on a dit tout à l'heure, pas d'ikhlas, non seulement on n'est pas récompensé, mais on est dans le petit shirk, le riya, ça se retourne contre nous. Et troisième chose, et ça fâche, c'est là que c'est un sujet qui fâche, si l'action n'est pas conforme à la sunna, l'action n'a aucun effet. Man amila amalan. Non, c'est pas ce hadith-là. Subhanallah, le hadith ne me vient pas à l'esprit. De ce sens, le prophète m'a dit que celui qui fait une pratique, qui apporte une pratique dans laquelle man ahdatha fi amrina hada ma laysa minhu fa huwa raddun. Celui qui apporte dans le din quelque chose qui n'en fait pas partie, l'action est rejetée par Allah. Maintenant, par déduction, on peut organiser les différentes actions. Par exemple, à notre époque, à l'époque, je crois qu'il n'y avait pas de Darul Uloum, il n'y avait pas de Nadarasa pour apprendre. On ne faisait pas 4 ans d'études, on apprenait tafsir, première année, hadith, fiqh, usul, d'accord. Ça, c'est une organisation. Donc ça ne s'appelle pas une bid'a, bien sûr, d'accord. Quand on organise la religion, ça, il n'y a pas de souci. Maintenant, si on apporte une idéologie nouvelle, des méthodes nouvelles, des pratiques que le prophète n'a pas fait, les sahaba n'ont pas fait, les tabi'in n'ont pas fait, les atba' tabi'in n'ont pas fait, et que nous-mêmes, en tant que Hanafi, Abu Hanifa n'a pas fait, ou que vous, en tant que Maliki, Imam Malik ne l'a pas fait, dans ce cas-là, on comprend bien qu'on ne peut pas être des éclairés, des illuminés par rapport à Imam Abu Hanifa, ou Shafi'i, ou Ahmad, ou Imam Malik. Si eux, ils n'ont pas vu cette action comme étant bonne, automatiquement, notre action, notre pratique est contraire, on n'est pas dans le droit chemin. Donc, ces trois conditions, la foi, la sincérité, et que chaque action qu'on accomplit, je dois être sûr qu'Allah l'a demandé et que le Prophète l'a fait. Il nous a montré que les Sahaba l'ont mis en pratique. Autrement, l'action n'est pas acceptée par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, on n'a pas pu compléter. Wal Fajri, Inch'Allah, on complétera Inch'Allah vendredi prochain, lorsqu'Allah ta'ala dira à ce musulman, à ce Ahlul Iman, Udkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Qu'Allah ta'ala nous accepte. Allah ta'ala donne tawfiq de comprendre les quelques paroles qu'on a dit, qu'Allah remplisse nos cœurs de sincérité et de constance, et qu'Allah nous accepte. Le plus important, c'est Al-Qaboul, qu'Allah nous accepte. Ce n'est pas de faire beaucoup de bonnes actions, c'est être sincère, avoir le cœur pur, et à partir de ce moment-là, quand on aura ces conditions-là, Allah ta'ala nous acceptera. Même, regardez quand Omar al-Khattab, il disait que si je savais qu'Allah ta'ala avait accepté un seul de mes sijda, je serais satisfait. Alors que nous, c'est un problème. Nous n'avons même pas cette étape de remise en cause. On ne se remet pas en cause. C'est-à-dire que quand on a fait une bonne action, c'est comme si l'action est acceptée immédiatement. Alors que les sahaba, lorsqu'ils faisaient une bonne action, ils avaient la crainte en eux. Ils craignaient quoi ? Ils ne savaient pas est-ce qu'Allah l'acceptait, oui ou non. Est-ce que les conditions de l'action étaient réunies, sincérité ou autre ? Est-ce qu'Allah l'a accepté, oui ou non? Alors que nous, quand on accomplit, on coupe le bœuf, le plus gros bœuf de Saint-Denis, on fait tout, subhanallah, hadith wa la haraj, mais en aucun cas, on se demande, est-ce qu'Allah a accepté? Et quand on ne se remet pas en cause, on n'essaie pas de progresser. Et là, les actions deviennent routines. On le fait, 2009, un bœuf blanc, 2010, un bœuf rouge, 2011, un bœuf noir, 2013, un bœuf marron, etc., etc. Et hadith, et voilà, on continue. Et les années passent, je fais, mais je ne me pose pas la question, comment puis-je parfaire l'action? Qu'est-ce que je dois faire en plus pour que Allah accepte? Comment est ma sincérité, etc., etc. Qu'Allah nous accepte, mes chers frères, nous donne tawfiq de propager également à nos mères et à nos soeurs. Man tawfiq illa billah. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جزاكم الله خير